Conférence privée du noviciat par le père Philippe à Saint-Jodard le 10 juin 1989.
Nous allons continuer cette recherche sur les vœux. Manière de nous rapprocher le plus possible du mystère de Jésus à la suite de Marie. Comment l'Église, de fait, a précisé cette ressemblance dans notre vie chrétienne, à partir de la grâce, c'est évident. Être le plus proche possible du mystère de l'incarnation, du mystère de la rédemption. Et ceci toujours avec Marie comme modèle. Donc je voudrais maintenant, je crois, puisque nous avons un peu précisé, je ne dis pas qu'on a creusé jusqu'au bout, hein. S'il y a des questions qui demeurent, vous les poserez. Je voudrais maintenant le voir par rapport à chacun des vœux. Puisque chacun des vœux représente quelque chose de particulier. On se rapproche du mystère d'incarnation par le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, différemment. Comment y a-t-il par les vœux comme un reflet du mystère des vertus théologales et par le fait même de la très sainte Trinité? Et ce qu'on disait ce matin, l'image de la très sainte Trinité, certaines images de la très sainte Trinité dans nos vœux. C'est ça qui est aussi très important. Les vœux proprement en nous nous unissent au mystère de l'incarnation et de la rédemption et au mystère de la compassion, mais en définitive les vœux nous unissent à la très sainte Trinité. Il y a une image de la très sainte Trinité dans nos vœux, quelque chose de trinitaire, toujours la même chose, voilà. La grâce nous met dans le mystère de la très sainte Trinité. La grâce chrétienne nous met dans le mystère de la très sainte Trinité par le Christ. Et notre grâce chrétienne nous unit à Marie, puisqu'elle est mariale. Il y a toujours les trois aspects qu'il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on va essayer de comprendre pour nos vœux. La grâce, comme telle, nous unit à la très sainte Trinité. Puisque la très sainte Trinité est cause principale de la grâce. La grâce chrétienne nous unit à l'incarnation. La grâce chrétienne et mariale ça nous unit au mystère de la compassion. Au mystère de la maternité divine de Marie. Tous les deux qui sont enracinés dans l'Immaculée Conception. Nous avons essayé de comprendre ce lien de nos vœux, le lien des vœux avec la grâce, le lien des vœux avec la grâce chrétienne, le lien des vœux avec la grâce mariale. Oui, alors Il faut bien comprendre ce lien entre les vœux et la grâce. Puis nous ferons ce dernier effort de voir les vœux dans la lumière de la très sainte Trinité. Vous voyez bien, la démarche, c'est d'abord par rapport à Jésus, par rapport à Marie, puis en dernier lieu, dans un regard contemplatif, comprendre les vœux reliés à la grâce et donc à la très sainte Trinité. Le lien entre les vœux et la grâce. C'est vrai, les vœux sont reliés directement à la grâce chrétienne, sont reliés directement à la grâce mariale, sont reliés donc à la grâce comme telle. Ils sont reliés à la grâce comment ? Par le point de vue des trois vertus théologales. Notre grâce implique la foi, l'espérance et la charité. Ces trois vertus théologales émanent directement de la grâce et transforment et divinisent notre être. Structure de notre vie chrétienne, de notre vie monastique, de notre vie contemplative, c'est la grâce et les trois vertus théologales. Tout le reste, c'est le rayonnement de la grâce. Tandis que les vertus théologales sont la structure même de la grâce. Elles sont reliées directement à la grâce. De la grâce émane la foi, l'espérance, la charité. Je dirais que c'est de la grâce tout court, ça. C'est pas la grâce chrétienne. La grâce chrétienne nous fera comprendre qu'il y a une foi chrétienne, une espérance chrétienne, une charité. Mais la structure de la grâce, profondément, c'est la foi, l'espérance et la charité. La foi transforme notre intelligence. Elle est reçue dans notre intelligence. L'espérance est reçue dans la volonté. Et la charité est reçue dans la volonté. C'est très curieux. Il y a une seule vertu théologale pour l'intelligence, il y en a deux pour la volonté. Vous vous demandez pourquoi ? Si on veut comprendre un peu la manière dont le levain transforme la pâte. Et la structure de notre vie chrétienne, c'est les vertus théologales. Ça, c'est évident. La foi est reçue dans ce qu'il y a de plus foncier dans notre intelligence. Avant la distinction de l'intelligence pratique, spéculative et pratique. La foi n'est pas vraiment spéculative. La foi n'est pas vraiment pratique. Elle est au-delà. Elle est reçue avant. Elle va s'exercer par d'une façon plus spéculative ou d'une manière plus contemplative. Premièrement contemplative. La foi est vraiment contemplative. Elle est en second lieu pratique. De développement différent de la foi. Mais la foi est au-dessus. Donc elle est reçue dans l'intelligence. Elle est reçue dans l'intelligence au-delà de la distinction du pratique et du spéculatif. Elle est reçue dans une intelligence soumise à l'amour. C'est donc une intelligence affective. C'est vrai, le point de départ de la foi, le Concile d'Orange l'a dit, c'est la pia affectio. La pia affectio, c'est cet amour que j'ai de la vérité. Je ne pourrais pas être croyant s'il n'y a pas cet amour de la vérité. cet amour de la vérité qui est surnaturel, qui n'est pas la charité au sens absolu, mais qui est une grâce de Dieu qui incline mon intelligence à s'ouvrir à une vérité reçue de Dieu. Pour recevoir la lumière de la foi, il faut qu'il y ait l'amour. Mon intelligence ne s'ouvrirait pas à l'autre s'il n'y avait pas cela. C'est quelque chose de très très radical, la foi. C'est cette exigence fondamentale et première de la recherche de la vérité. C'est pour ça qu'il faut toujours cultiver en nous cette recherche de la vérité, pour que mon intelligence soit en appétit de vérité. Et la foi implique cet appétit de vérité. Vous voyez, pour comment se fait-il que les gens perdent la foi? C'est-à-dire ne l'exercent plus. Quantité de chrétiens disent qu'ils ont perdu la foi parce qu'ils n'exercent plus. Pourquoi n'exercent-ils plus la foi? Parce qu'ils n'ont plus cet appétit de vérité. Ça, je crois que c'est très important dans notre monde qui se laïcise, qui s'est tellement laïcisé. La laïcisation est peut-être, voyez, parce qu'il faut rechercher ce que c'est que cette laïcisation dont parle tout le temps de Saint-Père. Sans l'analyser. Je crois que ce qu'il y a de plus fondamental dans la laïcisation de l'humanité d'aujourd'hui, c'est la perte de la recherche de la vérité. Et c'est cela que nous devons comprendre pour y remédier. Il est dit dans notre règle de vie que nous devons comprendre le mal le plus fondamental du monde d'aujourd'hui, dans lequel nous sommes appelés à être des témoins de Jésus et des apôtres. Donc c'est notre devoir de saisir quel est le mal fondamental de notre monde d'aujourd'hui. Le Saint-Père le désigne, donc nous sommes sûrs d'être dans la vérité, là, quand le Saint-Père nous le dit. Qu'il pourrait se tromper là, mais je crois qu'il ne se trompe pas. Vous voyez, il y a quelque chose de quand même très curieux, ça me frappe beaucoup dans l'enseignement du pape actuel et premier. Premier enseignement du pape, c'était à Paris, quand il disait que l'Église subit actuellement une méta-tentation. Ça, je crois qu'il faut toujours se rappeler ça. Et que cette méta-tentation, c'est que l'humanité veut se sauver par elle-même. Et aujourd'hui, le Saint-Père précise que c'est la sécularisation. Mettez toujours ces deux affirmations, elles s'éclairent mutuellement. Et elles nous font comprendre que le mal fondamental de notre monde d'aujourd'hui, c'est de ne plus chercher la vérité. Oui, le démon ne peut pas nous faire perdre la foi. Mais le démon peut nous orienter dans une piste où il n'y a plus possibilité de recevoir la foi. L'humus, vous savez, quand on plante une petite plante, il y a une terre particulièrement bonne dans laquelle cette plante va pouvoir pousser. Il y a une terre particulièrement bonne dans laquelle va pousser la foi. Et qu'est-ce que c'est que cette terre? C'est une intelligence qui s'ouvre parce qu'elle cherche la vérité. C'est une intelligence, vous voyez, qui participe à l'extase de l'amour. Et cette participation à l'extase de l'amour, c'est justement le dépassement à l'égard de la vérité. Quand nous cherchons la vérité, il y a un dépassement. Il y a quelque chose d'extatique en nous, du côté de l'intelligence. Alors que l'intelligence, naturellement, n'est pas extatique. Naturellement, notre intelligence, elle assimile. C'est ça qu'elle fait, elle assimile la l'appréhension. C'est pas du tout extatique, l'appréhension. C'est qu'on mange. J'ai faim. Je mange. C'est pas extatique, hein. Quand vous regardez au petit déjeuner, vous n'avez absolument pas une expression extatique. Chacun est dans son tout à fait individuel. On prend son bol de café, son bol de lait, et puis on mange. Assimile. L'intelligence, naturellement, assimile. Une intelligence capable de recevoir la foi est une intelligence qui participe à l'extase de l'amour par rapport à la vérité. C'est une intelligence qui s'ouvre vers autre chose. Ça, c'est capital. Et je crois que la sécularisation, c'est justement de refermer l'intelligence humaine sur elle-même. Ça, c'est le fondement de toute la sécularisation. Comprendre ce mal. Et vous voyez, cette attitude d'une intelligence qui dépasse son premier appétit d'appréhension pour saisir tout de suite un bien qui lui est supérieur, qui est de recevoir une vérité d'un maître, du maître. Vous n'avez qu'un seul maître, celui qui vous donne la vérité, Dieu. Dieu est le seul maître de l'intelligence, comme intelligence. Parce que l'intelligence est faite pour la vérité. Et Dieu seul donne la vérité. Les autres ne donnent pas la vérité, ils vous y conduisent. Pas la même chose. Ils sont dans le devenir. Tandis que Dieu donne la vérité. Et c'est la foi qui reçoit la vérité. C'est la foi qui reçoit cette vérité de Dieu directement. Qui nous met directement à l'école de Dieu. C'est ça qui est formidable. Et voyez, le baptême des enfants, des tout-petits, avant que l'enfant ait exercé son intelligence, Dieu devance par une miséricorde prévenante quelque chose d'analogue au mystère de l'Immaculée Conception. Une miséricorde prévenante. Il donne la grâce. Et la grâce donne la foi. Et mon intelligence est orientée radicalement vers Dieu avant quel est son exercice propre. C'est ça qui est si grand dans la foi. Et c'est ça qui est si grand dans le baptême. Et le baptême des enfants. Et supprimer le baptême des enfants, c'est oublier le mystère de l'Immaculée Conception. C'est peut-être pour ça, vous voyez, que le mystère de l'Immaculée Conception nous a été donné. Parce que Dieu savait très bien qu'il y aurait une tendance psychologique de refuser le baptême aux enfants. C'est au nom de la psychologie, ça, qu'on refuse le baptême des enfants. Oui, parce qu'il faut que l'enfant sache ce qu'il fait. On fait passer la psychologie avant la vérité. On fait passer la liberté avant la vérité. Alors que le mystère de l'Immaculée Conception nous montre cette prévenance qui est inscrite dans la grâce. Dieu nous prévient. Je crois qu'il faut comprendre ça, oui. Il faut un argument théologique par rapport à cette tendance d'aujourd'hui. C'est une tendance qui se généralise. Même dans des milieux chrétiens, on ne veut plus baptiser les enfants, les tout-petits. Alors les grands-mères les baptisent par derrière. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça constamment. Les parents disent non, non, non. Il faut attendre qu'il ait l'âge de raison. La grand-mère est furieuse parce qu'elle est chrétienne. Alors elle entre dans la chambre de l'enfant quand les parents sont pas là, elle le baptise. Elle le dit au curé après, j'ai baptisé le petit. Comme une victoire, elle dit ça. Et on est obligé de dire, non, vous n'avez pas le droit. Oh, j'ai pas le droit. Oui, vous n'avez pas le droit. Même si vous êtes grand-mère. Les parents seuls ont le droit de présenter l'enfant au baptême. c'est la grandeur des parents. C'est ce qu'il y a de plus grand dans l'acte des parents, c'est de présenter l'enfant au baptême. S'il comprenait ça, il le ferait avec joie. Et en ne présentant pas l'enfant au baptême, ils suppriment eux-mêmes. Au nom de la psychologie, au nom du primat de la liberté. Alors, l'autorité ne repose pas sur la liberté, l'autorité repose sur l'amour, le sens de la finalité. Et donc ils abdiquent, des parents qui font ça, ils abdiquent. Il faut leur dire, et leur faire comprendre qu'il y a une abdication fondamentale, qui est terrible. Exactement comme cette réponse que, en Amérique, à propos de l'avortement, j'ai trouvé ça très beau. C'est une mère qui m'a dit ça. Son grand argument, parce qu'elle lutte contre l'avortement, elle m'a dit, mon grand argument vis-à-vis des mères, c'est de leur montrer que, en acceptant l'avortement, elle meurt elle-même, donc elle se suicide. Mères, elles ne sont plus mères parce que leurs enfants ne peuvent plus la considérer comme mère si elles ont déjà des enfants. Leurs enfants peuvent dire c'est comme ça que tu es mère en livrant ton enfant à la mort, et donc elles tuent leur maternité. C'est un argument très fort, ça. Et très radical pour des mères qui ont déjà des enfants. Parce que le gosse, tout tard, saura que sa mère a avorté. Et donc elle n'a pas eu le courage d'une mère qui garde ses enfants. Elle l'a livré. Et en le livrant, elle ne l'a pas gardé. Et donc, elle est morte comme mère. Donc le suicide. Et c'est vrai, ça. C'est vrai, il y a quelque chose là de très profond. Vous voyez, je crois que c'est important de saisir ça aujourd'hui pour nous. Il faut méditer ça longuement pour pouvoir le dire avec douceur, avec beaucoup d'amour, parce que c'est terrible de dire à des parents qui ne veulent pas baptiser leurs enfants, eh bien, vous abdiquez. Vous n'aurez plus d'autorité. Vous-même. Alors on abdique dans son autorité et on abdique dans sa maternité. Et alors on comprend après ce qui se passe. Donc vous voyez bien ça. Je crois que c'est très très important pour nous de voir l'enracinement de la foi dans notre intelligence. Et voir que cet enracinement est quelque chose de tout à fait fondamental et lie l'intelligence à l'amour. Voyez, je crois que les deux grandes sources de laïcisation, c'est la perte de la recherche de la vérité et c'est d'oublier que l'intelligence est faite pour l'amour, est ordonnée à l'amour. C'est les deux grandes sources de la laïcité. Et c'est ça qu'on doit être attentif à ça. Ça, on doit le comprendre. Et on doit comprendre que la foi, justement, quand elle est comprise comme foi, implique cette recherche de la vérité et implique de lier divinement dans une alliance radicale, de lier notre intelligence à l'amour. Concile d'Orange, qui s'est réalisé à Orange, en France. Chaque fois que vous passez à Orange, pensez à ça. C'est merveilleux de voir cette définition de la foi, le point de départ de la foi, l'initium fidei, la bienfaction. Ça, c'est fondamental, la foi. C'est fondamental. Et c'est la rectification radicale de mon intelligence qui se fait par la foi. et qui se fait dans la foi. Donner à mon intelligence sa finalité propre, sa recherche de la vérité. La confirmer, parce que c'est un habitus, la foi. Donc c'est une orientation d'intelligence vers le point de vue de la vérité et une orientation d'intelligence vers l'amour. La vertu d'espérance, elle est reçue dans la volonté. Dans une volonté impliquant le devenir propre de la volonté. Quel est le devenir propre de la volonté? C'est le désir. C'est une volonté qui veut croître, qui veut aimer. Le désir, c'est un amour qui reconnaît qu'il est imparfait. Et donc, c'est un amour qui accepte la croissance et qui veut croître. C'est ça le propre du désir. Et l'espérance s'inscrit comme un habitus divin, donc comme une qualité divine, dans ce désir de la volonté, dans cette soif de la volonté, pour croître dans l'amour. L'espérance augmente le désir et l'espérance fortifie le désir. Un désir, c'est toujours fragile, puisque ça implique une imperfection, ça implique une potentialité. C'est toujours fragile, un désir. Le désir peut se perdre. C'est comme ça que la ferveur se perd. Parce que la ferveur implique le désir. Et quand on a plusieurs échecs successifs, on ne désire plus. On n'a plus de désir. On arrête dans le désir. Et quand on s'arrête dans le désir, on devient tiède. Le tiède, c'est celui qui n'a plus de désir. Il n'est ni chaud ni froid. Et Dieu a envie de vomir. C'est terrible de provoquer à Dieu le désir de vomir. C'est métaphorique, évidemment, tout ça. Mais c'est réel. C'est une métaphore divine. Qu'est-ce que ça veut dire? De provoquer en Dieu un désir de vomir. Ce qu'il a créé. Il a créé notre âme. Une âme tiède provoque comme un vomissement. Dire que Dieu ne se reconnaît plus en nous. Vous voyez la laïcisation. Dieu ne se reconnaît plus dans une civilisation de sécularisation. Il n'y a plus le reflet de Dieu, c'est pour ça qu'il a envie de vomir. Pensez ce que c'est que le vomissement. Quand avez-vous envie de vomir? Allez jusqu'à la vie végétative. Quand avez-vous envie de vomir? Et songez un peu, à partir de là, la métaphore que vous attribuez à Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Il y a des odeurs qui vous font vomir. Ça, c'est sûr. N'y pensez pas trop, parce que c'est... Il y a des odeurs qui vont vomir, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas manger dans certains lieux. C'est effrayant. Il y a la vision, quelquefois, par rapport à certains aliments qui vous font vomir. Pourquoi faut-il que les aliments, quand même, un tout petit peu, au point de vue de la vision, ne soient pas répugnants? Parce que ça vous fait vomir. Donc, le vomissement, c'est juste l'inverse d'avoir de l'appétit. C'est le refoulement le plus fondamental de toute notre vie végétative. Le vomissement, c'est le refoulement. On ne peut plus accepter c'est que Dieu ne reconnaît plus en nous. C'est que la récession. Une société qui n'accepte plus l'espérance et qui ne vit plus de l'espérance est une société qui se sécularise. Et la sécularisation, c'est par rapport aux trois vertus théologales. Et par rapport au fondement des trois vertus théologales, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté. L'espérance met en nous un désir divin de béatitude et de vision béatifique. Vivre la béatitude de Dieu, c'est ça l'espérance. Et de vivre cette béatitude de Dieu dès maintenant, tout de suite. La vie, autrement, est insupportable si on ne vit pas cette béatitude de Dieu, tout de suite. Et c'est ça l'espérance. Vous faites un acte d'espérance quand vous dites au Seigneur que vous savez que vous êtes fait pour la béatitude et que cette béatitude, vous pouvez déjà la vivre par la contemplation, dans l'amour. Et que vous invitez la très sainte Trinité à demeurer en vous. C'est votre béatitude. Et c'est votre espérance. Et l'espérance fortifie. Ça met en nous une force divine qui va aller jusqu'au bout, au milieu des luttes. L'espérance fait que jamais on tombe dans cette attitude de celui L'espérance aussi est extatique, puisqu'on regarde ce qu'il y a d'ultime comme présent. C'est ça la force de l'espérance. Ce qui est ultime devient présent. Et la charité s'enracine dans la volonté en tant qu'elle est capable d'aimer. Alors là, c'est l'aspect le plus fondamental de la volonté. La volonté est premièrement une capacité d'aimer. Et d'aimer une personne. Et dans la charité, j'aime les trois personnes divines. Pas seulement une, mais les trois personnes divines. À travers le Christ et dans le Christ. J'aime le Père, j'aime Jésus, j'aime l'Esprit Saint. Ça, c'est la charité. Et alors, la suppression de cette capacité d'aimer fait que dans l'homme, il n'y a plus aucune finalité. Puisque ma finalité, c'est d'aimer une personne. Alors c'est l'aspect radical, vous voyez. Alors essayez de comprendre ça. Parce que ça, c'est important pour nous. Que les trois vertus théologales, foi, espérance et charité, s'enracinent dans l'intelligence et la volonté. Et cet enracinement des vertus théologales implique des dispositions fondamentales, naturelles. Dans l'intelligence et la volonté. Et que la laïcisation consiste à inverser ces dispositions en faisant le repliement de l'homme sur lui. Laïciser une culture, c'est mettre l'homme dans un milieu où il ne pourra plus croire, espérer et aimer. Parce que c'est une attitude de repliement. C'est supprimer tout l'aspect extatique de dépassement. Et et c'est de faire croire que l'homme n'est parfaitement lui-même que dans ce repliement. Alors là, on est en présence de cette sécularisation qui est le mal de notre monde d'aujourd'hui, de notre culture d'aujourd'hui. Donc il faut la saisir, la comprendre. Bien, je voudrais vous montrer alors maintenant que ces trois vertus théologales, selon tous les mystiques, sont l'image de la très sainte Trinité en nous. Par la foi, c'est l'image du Verbe. Par l'espérance, c'est l'image du Père. Et par la charité, c'est l'image de l'Esprit Saint. Il y a cette présence dans les trois vertus théologales de toute la très sainte Trinité dans la grâce. Mais la très sainte Trinité est présente d'une manière spéciale par la foi, le Verbe, par l'espérance, le Père, et par le point de vue de la charité, l'Esprit Saint. C'est pour ça que la suppression de l'espérance va avec la suppression du mystère de la paternité. La suppression de notre lien avec le Verbe va avec la suppression de la soif de la vérité. Et la suppression de la capacité d'amour enlève le lien avec l'Esprit Saint. Il y a comme une espèce, j'allais dire, une triple sécularisation. Puisque c'est une sécularisation relativement à la très sainte Trinité. Sécularisation par rapport à une culture chrétienne. Vous voyez, au moment de la Révolution, puisque nous fêtons le bicentenaire, au moment de la Révolution, on a essayé de séculariser l'homme, mais pas jusqu'au bout. On a laissé l'aspect religieux. La révolution n'est pas née d'idéologie athée. Tandis que la seconde sécularisation dans laquelle nous entrons va jusqu'à supprimer l'attitude religieuse. C'est pour ça que c'est le bicentenaire. C'est-à-dire qu'on entre plus loin dans la sécularisation. Et vous verrez, ce sera la proclamation de l'homme qui se sauve par l'homme. Le symbolisme de ce bicentenaire, on plante l'arbre de la liberté. J'ai vu ça à Crotoy. J'ai demandé si le curé était présent pour bénir l'arbre de la liberté. On l'invite, comme tout citoyen. Alors il m'a dit qu'il n'avait pas été présent. Je lui ai dit très bien. Parce qu'il y aura un clergé qui a accepté la révolution, il y a un clergé qui accepte la sécularisation. Très attentif à ça. Nous vivons ça. Et nous vivons ça par une sécularisation, vous voyez, qui ne se fait pas directement en opposition avec le mystère du Christ et le mystère de la très sainte Trinité, qui ne se fait pas directement en opposition avec les vertus théologales, mais qui se fait par ce que le démon peut atteindre. C'est-à-dire les dispositions du côté de l'intelligence et de la volonté. En renversant ces dispositions et en faisant que l'homme se replie sur lui-même et qu'il se considère comme le seul absolu. Donc c'est l'homme qui s'adore. C'est l'homme qui met toute son espérance en lui. C'est l'homme qui ne veut aimer plus que l'homme. c'est à ce repliement complet, total, qui se fait sur lui-même. Donc, on enlève le mystère de la cohabitation de Dieu en nous par la foi, l'espérance et l'amour. Maintenant, je voudrais regarder comment les vertus, comment nos vœux permettent aux vertus théologales d'aller jusqu'au bout. Donc, font juste l'inverse de la sécularisation. Nous disposent à être réceptifs à la croissance de la foi. Réceptifs à la croissance de l'espérance et à la croissance de la charité. Le vœu de chasteté. Le vœu de pauvreté. Et le vœu d'obéissance. Ou bien l'inverse, ça m'est égal. Regardons ça attentivement. Parce que il faut que nous ayons cette vision des vœux au niveau théologal. Au XVIIe siècle, et dans les conséquences du XVIIe siècle, on voyait les vœux dans la perspective morale. Aujourd'hui, c'est complètement fichu ça. Vous voyez, si je faisais passer un examen moral pour entrer dans la congrégation, il y aurait très peu de candidats qui passeraient par la porte étroite. Tandis que si je regarde les vœux par rapport aux vertus théologales, c'est tout à fait différent. Même les convertis peuvent entrer. Et puis ils acquerront progressivement des vertus. Le vœu de chasteté est animé, s'il est vrai, de l'esprit de virginité. C'est ça l'importance du vœu de chasteté. Le vœu de chasteté, par lui-même, est négatif. C'est-à-dire, le vœu de chasteté nous demande de dépasser en nous tout ce que représente ce qu'on appelle aujourd'hui l'appétit sexuel. Vous voyez ? Donc l'appétit de procréation, l'appétit de ce que représente en nous la capacité de communiquer la vie. On peut évidemment faire que cet appétit soit uniquement dans un repliement sur nous-mêmes et donc source de jouissance sensible, sexuelle. La vertu de chasteté permet cette rectification de comprendre que les jouissances sensuelles, sexuelles, ne peuvent exister que dans une finalité propre à cet appétit naturel en vue de la procréation. Dans le mariage. Et la vertu de chasteté, on l'acquiert progressivement pour rectifier cet appétit fondamental qui est en nous. Plus fondamental, vous voyez, que l'appétit, plus fondamental, plus fort, disons, pas plus fondamental, plus fort, plus, oui, plus fort, au point de vue passionnel, que l'appétit de la nourriture. Mais il y a un lien. C'est pour ça qu'il y a un lien entre la chasteté et la tempérance. On verra ça au point de vue philosophique. Ici, je le prends tout simplement comme la chasteté, comme ce qui nous libère. Je dis bien cet appétit sexuel, de cet appétit tendant vers la procréation. Et l'aspect positif de la chasteté, c'est l'esprit de virginité. Je vous ai déjà dit, un amour ne peut être dépassé que par un autre amour. Or, il y a un amour sensible, naturel, vers le point de vue de la procréation. L'homme, dans sa structure corporelle d'homme, est fait pour la procréation. Et le genre animal, il est fait pour la procréation. Nous sommes tous faits pour la procréation. Et il y a un amour naturel vers la procréation. Cet amour naturel ne peut être dépassé que par un amour spirituel. L'amour d'amitié et la contemplation. L'amour d'amitié est au-delà de cet appétit sexuel, de cet appétit de la procréation. Ramener toute amitié vers le point de vue sexuel et vers le point de vue... C'est freudien. C'est Freud qui a dit ça. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas vrai. Qu'il puisse y avoir, en raison des conséquences du péché originel, une tendance à ce blocage, c'est vrai. Et la vertu de chasteté est là pour montrer qu'il n'y a pas de blocage. Donc la vertu de chasteté libère l'amour d'amitié de la tendance sexuelle. C'est ce que fait la chasteté. C'est ce que fait la vertu de chasteté. Mais cette vertu de chasteté ne sera pleinement elle-même, c'est-à-dire ne pourra vraiment s'épanouir parfaitement que grâce à l'esprit de virginité. Ce que nous verrons la fois prochaine. Et c'est à partir de là que vous allez comprendre comment cet esprit de virginité va libérer notre intelligence. Et permettre à l'intelligence d'être réceptive.